France Culture, 12h31. Avec mes excuses. Thomas Cluzel, c'est à vous pour les informations.
Bonjour Caroline, bonjour à toutes et à tous. Emmanuel Macron réunira cet après-midi le nouveau gouvernement de Jean Castex pour son premier conseil des ministres. Une nouvelle équipe marquée notamment par le retour en politique de l'ancienne ministre Roselyne Bachelot, mais aussi l'entrée d'un ténor du barreau Éric Dupond-Moretti. Un remaniement qui n'aura toutefois bousculé qu'à la marge les équilibres. Un nouveau plan de restructuration post-Covid pour compenser l'impact de la crise sanitaire. EDF prépare à son tour un plan d'économie d'envergure. Et puis nous reviendrons sur la vie du chercheur irakien Hicham Al-Hashemi, assassiné hier soir devant son domicile, un acte barbare qui aura provoqué aussitôt une vague d'indignation dans son pays et bien au-delà. Emmanuel Macron avait promis de se réinventer à l'issue de cette crise sanitaire sans précédent. Et de fait, fidèle à sa réputation de disrupteur, le chef de l'État sera parvenu à créer la surprise hier en nommant avec son Premier ministre une nouvelle équipe gouvernementale dont certaines personnalités ne devraient pas manquer en effet de bousculer les codes. Trois noms en particulier retiennent depuis hier toute l'attention. Éric Dupond-Moretti, tout d'abord le colosse des Assises, désigné garde des Sceaux. La non moins médiatique Roselyne Bachelot, ensuite ex-ministre de la Santé, retraitée de la vie politique, devenue chroniqueuse télé, accède au ministère de la Culture. Et enfin, Gérald Darmanin, visé par une plainte pour viol, promu premier flic de France. Alors c'est ce matin, en l'occurrence, que la passation de pouvoir a eu lieu au ministère de l'Intérieur avec son prédécesseur Christophe Castaner. Anne Fauquemberg, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes place Beauvau, où s'est tenue il y a un peu plus d'une heure maintenant cette cérémonie, dans un climat évidemment particulier, Anne, sur fond de malaise persistant chez les forces de l'ordre.
Oui, et comme une tentative de réconciliation, Christophe Castaner a rendu un hommage appuyé aux forces de l'ordre, se disant à plusieurs reprises fier d'avoir servi ce ministère et valorisant les points positifs de son bilan.
Nous avons répondu présent dans les crises, et en particulier la dernière, celle qui consistait à faire respecter le confinement. Nous avons, et vous le savez, Monsieur le Ministre, mieux que quiconque, augmenté le budget d'1 milliard pour la sécurité, augmenté les salaires, augmenté les effectifs. Nous avons renforcé notre action contre toute forme de violence.
Comme élu de terrain, je connais les difficultés des forces de l'ordre, a renchéri Gérald Darmanin, le nouveau ministre qui se rend en ce moment même pour une visite éclair au commissariat des Mureaux dans les Yvelines et qui a livré sa vision de la place Beauvau.
Le ministère de l'Intérieur est le ministère de la protection des Français. Permettez-moi de penser qu'il est par ailleurs le premier des ministères sociaux. Parce que lorsqu'il n'y a pas d'ordre républicain, lorsque l'État n'est pas présent, alors ce sont les plus faibles d'entre nous qui trinquent.
Un ministre qui a terminé son discours par un mot sur les cultes. Jamais la foi ne doit être au-dessus de la loi. Nous devons être intraitables avec l'islamisme politique qui attaque la République, a-t-il conclu à l'occasion de cette passation. Non sans polémique, vu la plainte pour viol qui vise Gérald Darmanin. Une quinzaine de féministes ont tenté une action coup de poing en début de matinée. Elles ont été refoulées par les policiers.
Merci Anne Fauquemberg en direct du ministère de l'Intérieur ainsi qu'à Julien Girard pour les moyens techniques. Alors si place Beauvau, le duo Castaner-Nunez a donc passé définitivement la main après une vingtaine de mois marqués notamment par la crise des gilets jaunes. Place Vendôme, cette fois-ci, c'est après un mouvement historique de grève des avocats contre la réforme des retraites qu'Éric Dupond-Moretti, connu pour son franc-parler mais aussi sa virulence à l'égard des magistrats, vient lui de succéder à la plutôt calme et discrète Nicole Belloubet. Florence Thion, bonjour.
Bonjour.
Comment s'est déroulée cette passation qui vient, je le précise, tout juste de se terminer?
Oui, alors c'était une prise de parole très attendue, compte tenu notamment des critiques émanant de l'Union syndicale des magistrats, qui avait parlé d'une déclaration de guerre, et en remettant les sceaux à Éric Dupond-Moretti, Nicole Belloubet le dit aussi, il faut une communauté judiciaire unie dans toutes ses composantes. Je suis certaine que vous saurez la fédérer. Ce message lancé à l'adresse d'Éric Dupond-Moretti, réponse immédiate et solennelle du nouveau garde des Sceaux.
Ce n'est pas le ministère de la guerre, même si j'ai cru entendre ces mots, mais celui des libertés. Je ne fais de guerre à personne. Je veux avec vous garder le meilleur et changer le pire.
Le reste du discours va rester sur le même ton, ferme et posé, loin des envolées enflammées qu'on lui connaît dans les salles d'assises. « Je ne suis pas un homme politique », poursuit Éric Dupond-Moretti, « mais j'ai décidé de m'engager auprès d'un homme courageux, le président de la République. Il a aussi commencé à dévoiler sa feuille de route. Je souhaite être le garde des Sceaux qui portera la réforme du parquet. Il a promis de veiller à la présomption d'innocence et au secret de l'enquête. La justice a dit Éric Dupond-Moretti dans l'une de ces formules où on retrouve l'avocat qu'il est généralement. La justice ne se rend pas dans la rue et l'honneur des hommes ne mérite pas d'être jeté aux chiens. Et enfin, une déclaration sans doute plus personnelle qui parle davantage de lui. Il pense à sa mère. Je pense à ma mère qui a quitté son pays d'origine, qui est devenue une Française de préférence. Je serai, conclut-il, un garde des Sceaux de sang mêlé. Mon ministère sera celui de l'antiracisme et des droits de l'homme. Voilà pour sa déclaration finale. Et la première visite d'Éric Dupond-Moretti en tant que garde des Sceaux sera pour le personnel pénitentiaire, un symbole également cet après-midi.
Merci Florence Sturm. Alors, outre Éric Dupond-Moretti, Gérald Darmanin et Roselyne Bachelot, cette nouvelle équipe gouvernementale est en réalité assez largement composée de vétérans de l'ancien gouvernement d'Édouard Philippe. Outre Bruno Le Maire, Jean-Yves Le Drian, Jean-Michel Blanquer, Florence Parly, mais aussi Jacqueline Gourault, Frédéric Vidal, Marc Fesneau, bien encore Jean-Baptiste Djebbari, qui tous conservent leur portefeuille avec parfois des attributions élargies, d'autres anciens demeurent eux aussi au gouvernement. Alors, certes dans de nouveaux ministères, mais l'architecture n'aura au fond été modifiée qu'à la marge, ou dit autrement Stéphane Robert, une sorte de changement dans la continuité.
Premier constat, Emmanuel Macron semble avoir perdu de son pouvoir d'attractivité. Il ne semble plus être en mesure de débaucher des personnalités politiques expérimentées, que ce soit à gauche comme à droite, comme en 2017. Il y a bien Roselyne Bachelot, ancienne ministre de Nicolas Sarkozy, mais elle était retirée du jeu politique depuis 2012. Il apparaît donc qu'Emmanuel Macron n'a réussi à recruter personne au sein de l'opposition, ni chez les écologistes, ni au Parti socialiste, ni chez les Républicains. C'est particulièrement vrai à droite, où l'on pensait qu'il était en mesure de procéder à de nouveaux embrigadements. Ce n'est finalement pas le cas. Le résultat des élections municipales n'y est sans doute pas pour rien. Elles ont montré aux personnalités de la droite républicaine que les alliances avec la République en marche n'étaient pas forcément gage de victoire électorale. Au contraire. Deuxième constat, Emmanuel Macron paraît confirmer durablement son ancrage politique au centre-droit. À Matignon, Édouard Philippe a été remplacé par Jean Castex, ex-secrétaire général adjoint de l'Élysée sous Nicolas Sarkozy. Et la plupart des ministres issus de la droite, recrutés en 2017, sont confirmés dans leurs fonctions ou voient même leur périmètre élargi. Bruno Le Maire, Jean-Michel Blanquer, Gérald Darmanin, lui, est promu au ministère de l'Intérieur. Sébastien Lecornu passe de la cohésion des territoires à l'outre-mer. Et puis, le troisième constat est qu'on a du mal à distinguer le projet politique derrière tout ça. On ne voit pas bien derrière ces personnalités où se trouve le renouvellement et l'ambition de se réinventer qu'avait annoncé Emmanuel Macron durant le confinement.
Et l'on précisera qu'un nom symbolise en revanche peut-être un tournant pris en l'occurrence avec réticence par le président Emmanuel Macron, celui de l'écologie avec la nomination de Barbara Pompili. Il apparaît assez clairement que le chef de l'État entend sur ce sujet garder toute sa liberté d'action. Si le mimosa illumine généralement de ses pompons jaunes d'or les débuts d'année un peu tristes au jardin, s'agissant du plan de restructuration baptisé ainsi chez EDF, il devrait être surtout synonyme d'une cure d'austérité historique. Objectif annoncé, combler les pertes causées par la crise sanitaire, estimées entre 2 et 3 milliards d'euros. Le géant de l'électricité a subi le double effet du coronavirus et des mesures de confinement qui ont fait donc chuter la consommation, les prix de l'électricité, mais aussi perturber les opérations de maintenance des centrales nucléaires et donc les perspectives de production du groupe. Les précisions d'Anne Lorchouin.
Les détails seront connus à la fin du mois, mais l'opérateur historique prévoit d'ores et déjà plusieurs scénarios. Céder des actifs, geler les embauches, geler les investissements et réduire les budgets partout où c'est possible. Les directions des filiales et des différentes branches sont ainsi priées de travailler sur le sujet. Des économies qui viendront donc en su d'un plan déjà drastique à l'œuvre depuis 2016 et la recapitalisation du groupe par l'État. EDF s'est engagé depuis cette date à économiser 1 milliard d'euros par an. Aujourd'hui, on parle donc de 2 à 3 milliards d'euros supplémentaires pour une entreprise qui, rappelons-le, devait déjà faire face à une dette de 41 milliards d'euros fin 2019. Alors, quelles sont les marges de manœuvre ? Pas de cession dans le nucléaire ni dans les énergies renouvelables, assure le PDG Jean-Bernard Lévy. Restent les filiales ou le distributeur Enedis qui pourrait échoir à la Caisse des dépôts. Tout est à l'étude, assure-t-on en interne. EDF qui perd depuis 2 ans 100 000 clients par mois, tout en se voyant dépenser beaucoup d'argent dans la maintenance d'un parc nucléaire vieillissant, qui doit investir dans son parc de renouvelables et qui paye les retards à répétition de ses 2 EPR européens. Faudra-t-il une nouvelle recapitalisation ? Pour l'instant, l'option n'est pas évoquée.
Dans son dernier tweet, il avait une nouvelle fois dénoncé la responsabilité des partis confessionnels et religieux dans les divisions de la société irakienne. Hier soir, Hicham Al-Hashemi, l'un des plus brillants chercheurs de son pays, spécialiste mondialement reconnu des mouvements djihadistes, consulté pour son expertise par de très nombreuses chancelleries, a été assassiné devant son domicile à Bagdad, suscitant aussitôt un flot ininterrompu de réactions aussi émues qu'indigné. Alors cet assassinat n'a pas été revendiqué, mais beaucoup y voient déjà la main des milices chiites pro-iraniennes dont il dénonçait la mainmise sur l'État et qui en retour Omar Waman l'avait donc menacé à plusieurs reprises pour ses prises de position.
Lors de l'une de ses dernières apparitions à la télévision sur la chaîne saoudienne Al Arabiya, Hicham Al-Hashemi analysait la menace grandissante des factions chiites irakiennes, ces groupes extrémistes inféodés à l'Iran, à l'origine en septembre dernier d'une violente campagne de cyberharcèlement contre lui, menacé de mort, photo à l'appui. Ces milices chiites n'étaient pas les seuls à s'en prendre régulièrement sur les réseaux sociaux à ce père de famille de 47 ans. Hicham Al-Hashemi était également dans le collimateur des groupes djihadistes sunnites comme Daesh, qu'il accusait d'être à la solde d'Israël ou des Américains. Bien introduit dans tous les milieux confessionnels, il livrait ses informations et analyses sur les plateaux de télé, mais aussi pour de nombreux centres de recherche. Ces dernières années, il était même devenu consultant pour plusieurs chancelleries. Hicham Al-Hashemi était tout simplement devenu incontournable, ses prises de position retentissantes. Dernièrement, il avait pris fait et cause pour les milliers de jeunes qui manifestent depuis des mois contre la corruption et la mainmise de l'Iran sur leur pays. Sa mort, exécutée de plusieurs balles dans la tête, s'inscrit dans une longue liste d'assassinats ciblés qui ensanglantent l'Irak.
Aux États-Unis, les étudiants étrangers vont-ils devoir choisir entre des cours en présentiel au risque d'être contaminés ou se faire expulser ? Hier, le gouvernement de Donald Trump a prévenu qu'il ne reconduirait à la frontière tous les élèves dont les universités décideraient de poursuivre à enseigner uniquement en ligne à la rentrée prochaine. En Chine, là-bas, c'est une semaine de stress qui commence pour quelques 11 millions de lycéens appelés à passer l'équivalent chez nous du baccalauréat aujourd'hui et demain, des épreuves qui avaient été reportées jusque-là pour cause d'épidémie de coronavirus. Le Gaokao, c'est son nom, est un examen réputé extrêmement difficile en Chine et dont l'obtention ou pas peut profondément changer la vie de chacun, comme en témoigne ce reportage signé de notre correspondant Dominique André.
Le Gaokao est organisé dans toute la Chine. À Pékin, les surveillants des épreuves ont été dépistés et les candidats doivent avoir moins de 37,3 de température pour être autorisés à passer l'examen. Le Gaokao est plus qu'un simple examen, il est un ascenseur social pour les enfants des 600 millions de Chinois qui vivent dans les campagnes. Zhang Yansai est aujourd'hui ingénieur en aéronautique. À 12 ans, il allait à l'école pieds nus dans le Fujian, au sud-est de la Chine.
Chaque jour, je me levais à 6h30 et je travaillais jusqu'à minuit. Lorsque j'ai été admis à l'université, mes parents ont invité tout le village à manger. C'était une grande fête.
Le Gaokao aurait pu changer aussi le destin de Madame Guo. Ses résultats ont été attribués à la fille d'un professeur. C'était il y a 20 ans, mais le scandale vient d'être révélé par une télévision locale. Guan Yanping, responsable de la commission éducative, a tenu une conférence de presse.
La plupart des cas ont été signalés avant 2006. On manquait d'outils informatiques, la publication des résultats n'étaient pas transparents. Les fraudeurs ont été admis à l'université en violant la réglementation.
L'histoire a fait plus d'un milliard de vues sur Weibo, le Twitter chinois. Le gouvernement central veut rassurer l'opinion publique qui s'est émue de cette injustice.
On termine avec un mot rapide du temps pour cet après-midi, marqué par le retour du soleil sur l'ensemble du pays. Quant aux températures, elles afficheront entre 19 et 34 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Brice Garcia. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Benoît Bouscarel pour le prochain journal de la rédaction.